When this girl's photograph was taken in 1917, were there really fairies at the bottom of a Yorkshire garden?
Les Fées de Cottingley, par Juliette Hamon et François Teste. Deuxième épisode, la fin du mensonge.
Les Fées de Cottingley, bon, on connaît l'histoire, c'est deux petites filles, c'est Frances et Elsie qui racontent à leurs parents qu'elles voient des fées. Ça se passe dans le Yorkshire, tout en haut. Elles pourraient voir plutôt des pixies, mais bon, elles voient des fées, enfin des fairies, hein, c'est ça, ça veut tout dire, c'est le petit peuple. Et bon, évidemment, on croit pas trop. Et le père est électricien, mais en même temps, c'est un photographe amateur. Donc, elle demande à son père qu'il lui prête son appareil. Et là, elles vont dans le bois, un vallon très très joli avec un petit torrent. Et là où elle les rencontre, et elle va photographier sa cousine entourée de fées. Et donc, son père, qui a mis la plaque, la développe et voit brusquement cette Elsie avec ses petites fées qui dansent autour.
Nous sommes en 1920, en Angleterre, où le débat entre le matérialisme et le spiritisme bat son plein. Un peu plus tôt, dans un cottage du Yorkshire, deux jeunes cousines anglaises révèlent des photographies de fées. Dans les milieux spirites, on se refile les photographies de main en main, persuadées d'avoir en sa possession une pièce à conviction. Et puis, c'est dans les mains de Sir Arthur Conan Doyle, père de Sherlock Holmes et figure de proue du spiritisme, que les photographies atterrissent. Hélène Machinal, vous êtes professeure des universités à Rennes 2. L'histoire des fées de Cottingley se déroule en 1917, à cette période où en est Conan Doyle.
Conan Doyle, à cette période, est sur la fin de sa carrière, on pourrait dire. Il s'est déjà engagé pour plusieurs causes et il a surtout été très marqué par les deux conflits qui ont eu lieu à la fin du 19e, début du 20e, la guerre des Boers en Afrique du Sud et puis ensuite la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale en particulier, puisque son beau-frère et son fils sont décédés pendant ce conflit. Conan Doyle se déclare en fait qu'il s'est converti au spiritisme entre 1915 et 1916. Et donc, il est alerté assez rapidement sur cette affaire en fait des fées par Gardner et il va tout de suite s'y intéresser.
J'ai devant moi un des articles écrits par Sir Arthur Conan Doyle sur ce sujet. Il a intitulé son article « Un événement historique » et c'est paru dans The Strand Magazine en décembre 1920. Ils reproduisent les photos. Il appelle ça « les photos les plus stupéfiantes jamais publiées ».
Natasha Henry, autrice de l'affaire des fées de Cottingley.
Il commence ainsi « Les événements relatés ici et les clichés parlent d'eux-mêmes. Pour la connaissance humaine, ils sont de la plus haute importance que le public juge par lui-même. » Et il développe tout un tas d'arguments sur pourquoi ce sont des vraies photos, pourquoi c'est une histoire vraie. « Cependant, dit-il, après avoir soigneusement tout examiné, j'affirme ceci, deux points, il s'agit d'une histoire vraie. » Et puis il raconte qu'il a reçu une lettre d'un confrère qui aime le spiritisme, qui lui signale l'existence de ces photos dans le nord de l'Angleterre. Et puis il raconte comment les photos ont été prises. Il raconte les négatifs ont été transmis à Kodak. Les experts ont conclu à l'absence de trucage, mais qu'il y avait peut-être un piège. Un autre spécialiste était perplexe devant les coiffures élaborées et parisiennes des petites dames. Il montre un peu, pour faire un argument scientifique, il montre les oppositions qu'il y a eu à la véracité de ces photographies pour prouver qu'en fait, c'est absolument archi vrai. Il raconte toute l'histoire, il raconte même quel est l'appareil photo utilisé, un Midge à plaque de verre, que la distance était d'environ 1,2 mètre, l'exposition 1/50 de seconde. Il donne des détails vraiment pour qu'on aille dans son sens. Et pour lui, c'est un événement extrêmement important.
Hélène Machinal, Arthur Conan Doyle va décider de publier ses photographies dans un article qui va paraître dans The Strand Magazine. Qu'est-ce que représente ce magazine pour lui ?
Alors, le Strand Magazine, c'est vraiment un des magazines iconiques des publications à l'époque au 19e en Angleterre, des publications hebdomadaires. C'est bien sûr un magazine qui est rétrospectivement extrêmement connu, puisque c'est dans ce magazine qu'ont été publiées toutes les nouvelles mettant en scène Sherlock Holmes. Donc c'est vraiment le magazine associé à Sherlock Holmes. Et c'est un des grands périodiques du 19e, donc tout à fait typique de cette période au 19e où la presse périodique explose littéralement en Angleterre. Présente les faits et il déclare que lui considère que ces photos sont authentiques.
La conclusion de Conan Doyle dans cet article-là, c'est ainsi. Lorsque Christophe Colomb est tombé à genoux en découvrant l'Amérique, personne n'aurait pu prédire que ce nouveau continent allait changer l'avenir du monde. Nous semblons nous aussi au bord d'un nouveau continent, un continent dont nous sommes séparés non pas par les océans, mais par des conditions psychique, subtile et surmontable. Donc, pour Conan Doyle, grâce aux photographies prises par Elsie et Francis, nous avons, nous autres humains, accès à ce monde formidable qu'il pressentait, lui, et dont on a maintenant la preuve.
De la fin du 19e et du début du 20e, on est dans une période de sécularisation de la société, due aux découvertes scientifiques en particulier, l'évolution des sciences à l'époque, avec en particulier la révolution darwinienne et la théorie de l'évolution, qui va avoir un énorme impact sur les inconscients collectifs et sur les représentations que les êtres humains se font d'eux-mêmes et d'elles-mêmes à l'époque. Et donc, dans cette période-là, si vous voulez, tout ce qui relève de la métaphysique est décrédibilisé, la représentation du monde telle qu'elle pouvait apparaître dans la Bible est remise en question, puisqu'à l'époque, il faut quand même se rappeler que, enfin, avant la révolution darwinienne, on datait les origines du monde à 4000 ans avant la période victorienne. Donc, c'est dire le manque de connaissances qu'on pouvait avoir. Et donc, c'est une période où le métaphysique disparaît et, en quelque sorte, il y a peu de choses qui permettent de le remplacer. Et donc, ce qui est assez intéressant dans le spiritisme, c'est justement que c'est une religion qui revendique à la fois une dimension spirituelle, métaphysique, mais aussi le fait d'être une révélation scientifique. Donc, une approche rationnelle de ce qu'on appelle à l'époque une révélation, ce qui peut paraître anachronique, hein, puisqu'a priori, une révélation n'est pas rationnelle. Mais l'idée, c'est bien ça, c'est que le spiritisme permet de garder un pied ancré dans la rationalité et un pied ancré dans le métaphysique.
Mireille Berton, vous êtes maître d'enseignement et de recherche en histoire et esthétique du cinéma à l'Université de Lausanne. D'après vous, pourquoi est-ce que Conan Doyle cherche à prouver rationnellement le suprasensible ? Pourquoi est-ce qu'il est dans une forme de croisade, quoi ?
C'est toute une génération, je dirais. L'engouement pour le spiritisme est manifeste chez des savants, des personnalités, des intellectuels. C'est très courant à cette époque, cette espèce de fascination pour le merveilleux psychique. Alors je dirais que le spiritisme répond d'abord à une curiosité, une volonté d'accéder au mystère de l'univers, de repousser les frontières du connu, du savoir. Les partisans du spiritisme d'ailleurs se définissent comme des explorateurs intrépides d'un monde inconnu, plein de secrets qui restent à révéler, à déchiffrer pour le bien de l'humanité. Puis le deuxième élément, je dirais que ces phénomènes inexpliqués répondent aussi à une quête personnelle, souvent à la suite d'un décès, du décès d'un proche avec lequel on espère pouvoir entrer en contact. Et il a été montré que de nombreuses personnes se convertissent au spiritisme ou à l'occultisme précisément après avoir perdu un proche, espérant ainsi renouer avec lui sur un autre plan de l'existence. Donc je dirais que pour revenir au récit ou à la fable des fées de Cottingley, c'est la trajectoire personnelle de Conan Doyle qui est profondément marquée par la disparition de plusieurs proches autour de lui, notamment de son fils, qui est au fondement de son intérêt pour les phénomènes inexpliqués. C'est son désir de croire en l'invisible et le contexte historique aussi qui donne aux fées, aux gnomes et aux autres farfadels leur validité.
Et donc en 1920, quand il entend parler de ces photographies des fées de Cottingley, selon vous, Hélène Machinal, qu'est-ce qui se passe ?
Je pense que quand il entend parler de ces photographies, c'est l'opportunité pour lui de prendre position, de réaffirmer l'existence d'un monde de l'au-delà, on pourrait dire, hein, où des esprits restent en transition avec qui on peut rentrer en communication. Et je pense que d'ailleurs, du côté de la famille Wright, ça a dû avoir un sacré effet que de recevoir une lettre de Conan Doyle qui, à l'époque, bon, et bien sûr, le père de Sherlock Holmes est quand même extrêmement connu, donc de voir quelqu'un de sa notoriété s'intéresser à cette affaire a dû avoir aussi son impact, je pense, sur la famille Wright, dans laquelle, bah, comme on sait, le père de toute façon considérait dès le départ que ces photos n'étaient pas authentiques.
Pierre Dubois, nous sommes ici dans votre salon qui est construit comme un cabinet de curiosité elfique. Nous sommes en compagnie de petits lutins en bois, de petites fées en porcelaine, de gravures, de moquettes et autres velours rouges.
Et des marionnettes aussi, oui. Il y a aussi beaucoup de choses
beaucoup de
Conan Doyle, j'ai toujours aimé Conan Doyle.
Et donc beaucoup de, ouais, de Sherlock Holmes.
Oui, de But du Merveilleux, de l'aventure un peu. Là, il y a Harry Dixon et c'est genre, ça, voilà, c'est un Rackham.
Qu'est-ce que Sherlock Holmes, justement, aurait pensé de cette histoire des fées ?
Ce que j'aime chez Sherlock Holmes, c'est cette époque-là. Cette époque-là, avec lui, glacé, froid, qui ne veut pas rentrer là-dedans, alors que Conan Doyle, lui, avec Challenger et tout le reste, est complètement... on a l'impression qu'il s'amuse et qu'il se moque quand même un petit peu de Sherlock Holmes. On a l'impression qu'il dit « Ouais, mais tu crois ça, mais moi je sais que derrière, il y a quand même quelque chose. »
Merrick Burrough, chercheur en littérature victorienne.
Les premières photos ont été publiées en 1920 et les autres en 1921. Puis le livre de Conan Doyle, Les fées sont parmi nous, est sorti en 1922. Le sujet a continué d'intéresser les gens, en particulier parce que Conan Doyle en a fait une grande affaire dans sa lutte contre ses détracteurs. Edward Gardner a continué à parler des faits de Cottingley dans ses livres parus en 1945 et 1946. Il en parlait encore dans ses causeries d'après-dîner, dans ce genre d'occasion, dans les années 60. Il y a eu des articles dans les journaux et les magazines, des émissions, des interviews à la télé, jusqu'au début des années 80, quand les filles ont fini par avouer que les photos avaient été mises en scène.
Elles ont conservé le mystère sur ces deux photos pendant des décennies.
Natacha Henry.
Un journaliste retrouve leurs traces et il y a ainsi les révélations de Frances, la jeune cousine, qui, au moment de ces révélations, a 75 ans. The Times, du 18 mars 1983, que j'ai sous les yeux, donc, l'article s'intitule « Les photos qui ont trompé Conan Doyle ». Les fées de Cottingley étaient un canular. Donc elles ont attendu des décennies pour dire la vérité, pour révéler le trucage et pour expliquer comment elles avaient en fait fabriqué ces photos. «
Frances Griffiths has brought her daughter to see the house in Cottingley, where she lived with her cousin Elsie Wright during the First World War.
Extrait du documentaire World of Strange Powers, avec les cousines Elsie Wright et Frances Griffiths.
Elsie a dit un soir, nous nous apprêtions à nous coucher, elle a dit, j'ai pensé à un truc. Elle adorait le cinéma, Elsie. Et si je dessinais des fées sur du carton et les découpais? Nous les disposerions dans l'herbe et si tonton ou papa nous prêtait leur appareil, nous prendrions une photo. S'ils les voyaient, ils devraient bien y croire. Ils arrêteraient toutes leurs blagues.
Mary Borrow, quel était le secret de fabrication de ces photographies?
C'était une supercherie plutôt simple. Elles ont dessiné des fées et les ont attachées à des épingles à chapeau qu'elles ont ensuite plantées dans la terre. Il s'agissait de découpage de papier. Ce qu'il y avait de particulièrement remarquable là-dedans, entre autres choses, c'est que les fées des deux premières photos avaient été copiées dans un livre de Frances Griffiths intitulé « Le livre cadeau de la princesse Mary ». C'était un ouvrage qui avait été vendu au bénéfice d'œuvres de charité. On y trouvait un poème illustré, la chanson pour les fées. Le dessin représentait des fées en train de danser. Elsie les a copiées en leur ajoutant des ailes et d'autres petites choses. Et puis, elle a découpé ces dessins et s'en est servie pour les photos. L'ironie de l'histoire, c'est que le livre cadeau de la princesse Mary contenait aussi un récit de Conan Doyle. Il est donc possible qu'il avait déjà vu les fées dans le passé, au moment de la publication du livre.
Je n'ai même jamais pensé que c'était une fraude. Elsie et moi voulions simplement nous amuser un peu. Et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens se sont laissés prendre. Ils voulaient se laisser prendre, parce que les gens me disent souvent « Vous n'avez pas honte d'avoir fait passer tous ces pauvres gens pour des idiots ? Ils vous croyaient. Mais je n'éprouve aucune honte parce que les gens voulaient croire. » Regardez cette photo. On voit bien que cette fée a été dessinée. Cette jambe n'appartient pas à cette fée. Et quelqu'un l'a remarqué dans le journal. Et l'un de nos chers croyants a dit, « Bah, les fées ne sont pas des humains. Elles n'ont pas le même corps que nous. Elles n'ont pas le même squelette, les mêmes bras, les mêmes jambes. »
Ce qui est également remarquable, c'est le talent artistique d'Elsie Wright. Ses dessins sont merveilleusement exécutés. Non seulement elle a superbement reproduit les fées, mais elle a aussi pensé à estomper leurs bords avec de la craie pour leur donner un aspect tridimensionnel. Quand elles étaient plantées dans le sol et qu'elles étaient photographiées, l'effet était impressionnant. J'ai moi-même essayé de refaire les photos, en copiant les fées, en les découpant, en les attachant à des épingles et en les plantant dans la terre, et je peux vous dire que mes fées étaient loin d'être aussi réussies que les siennes.
Et Frances et Elsie vont toutes les deux admettre que, en fait, elles auraient bien dit la vérité plus tôt. Mais elle voulait attendre le décès de Conan Doyle.
C'était très gênant, vous comprenez, parce que deux petites villageoises face à un homme brillant comme Conan Doyle, nous ne pouvions que rester silencieuses.
J'ai ici la citation empruntée au livre de Conan Doyle, « Les fées sont parmi nous ». Il évoque la possibilité que les photos des fées aient été truquées. Il parle d'abord des vérifications qui ont été faites, notamment pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu de double exposition. Bien sûr, il n'y en avait pas eu. Et dans son livre, il ajoute, « Elsie ne pouvait l'avoir fait qu'en découpant des images de différents modèles, qui devaient avoir été d'une exquise beauté, puis en les préparant et en les conservant à l'insu de ses parents. Et elle avait aussi dû se montrer capable de créer une impression de mouvement pour tromper l'expert qui les examinerait. C'était beaucoup lui demander. Et il écrit aussi, « Comment aurait-il été possible qu'une photographe amateur d'un petit village ait pu avoir l'équipement et le savoir-faire nécessaire pour produire un faux indétectable par les meilleurs experts de Londres. » Il décrit donc dans son livre le procédé utilisé par Elsie
Mais il rejette la possibilité qu'elle ait pu l'employer parce qu'elle n'était qu'une gamine, une petite villageoise, et que les experts consultés ne croyaient pas non plus qu'elle en ait été capable. Conan Doyle comprenait donc comment cela aurait pu être fait, mais il ne voulait simplement pas croire que cela avait été fait.
Mireille Berton, les photographies des fées de Cottingley ont poursuivi les deux cousines toute leur vie malgré elles. Selon vous, est-ce que le fait que ce soit des femmes a pu jouer dans cette histoire ?
Absolument. Je dirais d'abord pour commencer que les fées de Cottingley racontent l'histoire d'un rapport de pouvoir entre d'un côté des jeunes filles issues de familles modestes qui s'évadent à travers l'imaginaire en utilisant judicieusement la photographie et un groupe d'hommes de classe moyenne et supérieure déterminés à croire au monde de l'invisible et à l'existence de créatures surnaturelles, en l'occurrence ici des esprits de la nature. Et ces hommes vont littéralement se réapproprier un jeu d'enfants, vont récupérer l'imaginaire de deux jeunes filles qui n'ont jamais cherché à être dans la lumière, tout en transformant cet imaginaire pour qu'il réponde à leur visée, qui est de trouver des indices témoignant de l'existence de créatures magiques. Donc, on peut parler d'un processus d'instrumentalisation de cet imaginaire, mais aussi de construction d'une identité médiumnique, puisque les hommes interprètent l'apparition des fées comme le résultat des dons de médiums d'Elsie et Francis. Elles sont, en effet, perçues comme des médiums parfaites, dotées d'une âme pure, d'une innocence infantile, d'une naïveté propice au contact de l'invisible. Et Conan Doyle insiste à ce moment-là, dans son article, insiste pour la décrire comme une enfant prépubère et donc encore à l'abri des affres de la maturité sexuelle qui est considérée à l'époque comme étant susceptible de corrompre l'âme des femmes et d'hypothéquer les dons médiumniques. Et insister sur leur innocence, c'est une manière d'affirmer l'authenticité des faits et ce faisant aussi d'invalider l'argument de la fraude ou de la cupidité qui pourrait animer les familles de ces jeunes filles.
Lettre d'Elsie Wright au journaliste Joe Cooper.
Merci pour votre lettre qui montre à quel point vous avez compris dans quel pétrin Frances et moi nous étions mises cette fameuse journée de 1916. Quand notre farce était tombée à plat, vu que personne n'avait cru que nous avions pris des photos de vraies fées. Imaginez que nous ayons raconté toute l'histoire et que la blague se soit arrêtée là. Si seulement il en avait été ainsi. Mais au lieu de cela, la blague s'est retournée contre nous. Tous nous ont demandé en riant comment nous nous étions débrouillés. Nous sentant ridicules, nous n'en avons plus parlé, jusqu'à ce que des années plus tard, Conan Doyle s'intéresse à notre histoire. Mon père m'a dit que je devais sans plus tarder expliquer comment j'avais obtenu ces photos. Alors j'ai pris Frances à part et nous avons eu une bonne discussion, car c'est moi qui avais eu l'idée de cette farce. Elle m'a supplié de ne rien raconter, car l'article du Strand Magazine lui avait valu un tas de moqueries à l'école. Quant à moi, j'avais de la peine pour Conan Doyle. Nous avions lu les commentaires acerbes dans la presse, d'abord sur son intérêt pour le spiritualisme et maintenant sur sa croyance dans l'existence de nos fées. Dans un journal, une caricature cruelle l'avait même représenté enchaîné à une chaise, la tête dans un nuage, sous la garde de Sherlock Holmes. Il avait récemment perdu son fils à la guerre et sans doute le pauvre homme essayait-il de trouver du réconfort dans le surnaturel.
J'ai eu la chance d'interviewer pour ce livre la fille de Francis et le fils de Elsie et de découvrir qu'il y avait en fait un monde qui s'était créé pour les séparer.
Natacha Henry.
La première chose, c'est la célébrité. Elsie, qui était à l'initiative de ces photographies, qui était l'aînée, elle voulait vraiment devenir artiste. Au moment où l'histoire commence, elle travaille comme retoucheuse de photographie chez un photographe à Bradford. C'est un vrai métier à l'époque, c'est important pour elle, elle voulait continuer. Son fils m'a raconté qu'à l'issue de cette affaire, elle avait certes continué à peindre, mais elle n'avait plus rien montré jamais à personne. Il m'a dit « Dans la pièce où je me trouve, je suis entourée des aquarelles de ma mère. » Mais personne ne les a jamais vues. Elle a payé très fort le prix de la célébrité, à un âge trop jeune. C'est pas ce qu'elle voulait. C'est-à-dire qu'après ça, c'était fini. Elle est partie vivre à l'étranger, elle a épousé un monsieur et ils sont partis vivre à l'étranger. Et la deuxième, Frances, aussi. Elle a épousé un monsieur et elle est partie vivre à l'étranger et on n'a plus vraiment voulu parler de cette histoire-là dans les familles.
Méric Borot, les photographies ont beaucoup voyagé. Les cousines ont-elles reçu des droits d'auteur sur ces photos ?
Non.
Comme je l'ai dit précédemment, les photos ont été attribuées à Edward Garner pour épargner une publicité non désirée aux filles. Si leur nom avait été mentionné sous les photos, cela les aurait identifiées. Mais par la suite, elles n'ont jamais reçu de droit d'auteur pour les photos. Autant que je sache, ce sont les héritiers d'Edward Garner qui en sont toujours les détenteurs. Et les filles n'ont jamais touché d'argent pour leurs photos.
1917, il y a eu la guerre en Angleterre. Il y a eu tout. Et il y a une espèce de tristesse quand même. Conan Doyle disait que le fait du retour des faits, de recroire aux faits, permettrait à toute la civilisation un peu de sortir de la boue dans laquelle il s'était enfoncé. Et la boue, c'était quand même aussi toutes ces tranchées de la guerre 14, cette espèce d'avancée des tanks d'une guerre criminelle qui allait tout détruire. Et ces faits étaient là comme une espèce d'appel, de rappel à autre chose, à un paradis perdu. Et pour Conan Doyle, le fait que les faits existent à nouveau, ça permettrait, si on y croit à nouveau, d'avoir un monde plus beau.
Ce soir, une fée dans un pays hanté. Ce soir. Ce soir, une fée d'une voix enchantée. Ce soir.
C'était Les Fées de Cottingley. Avec Mireille Berton, Méric Borot, Pierre Dubois, Natacha Henry et Hélène Machinal. Avec la voix de Lise Combe, traduction Thierry Beauchamp. Attachée d'émission Sylvia Favre, coordination Christine Bernard, documentation musicale Antoine Villouz. Un documentaire de Juliette Hamon, réalisé par François Teste. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.
Sécher ses pleurs. J'ai